Bonjour à toutes et à tous, auditeurs, auditrices des Radios Civière. Moi, c'est Nini Vijegas et je me réjouis d'accueillir Jérôme Vanni. Bonjour Jérôme.
Bonjour.
Bienvenue au studio des Royaux de la Civière.
Ben, merci.
Alors, je vous prie de bien vouloir vous présenter, comment vous le sentez, à votre guise, pour nos auditeurs et nos auditrices.
Bien, Jérôme Vanni, donc je suis technicien à l'Office national des forêts. Je suis responsable d'unité territoriale à Limoges et j'ai œuvré pendant presque 20 ans sur le territoire de Vassivière. Et je continue maintenant, mais avec une charge un peu différente.
C'est quoi vos missions au sein de l'ONF?
Alors, moi, mes missions, c'est d'être dans le cadre d'une équipe de 7 techniciens qui interviennent sur la Haute-Vienne, un bout de la Creuse, un bout de la Corrèze. Et on intervient régulièrement donc, sur le lac de Vassivière et à proximité. Notre travail au quotidien, c'est faire de la gestion durable, en fait, gérer toutes les forêts qui appartiennent aux collectivités, que ce soit aux communes, départements, régions, conservateurs du littoral, à ce titre-là, donc c'est pour ça qu'on intervient sur le lac de Vassivière.
Parlons de la gestion de la forêt. Alors, ça veut dire quoi gérer la forêt?
Alors, avant de parler de gestion, il faut parler un petit peu d'histoire de la forêt en Limousin. La forêt est toute jeune, en fait. Il y a un siècle, il n'y en avait quasiment pas en Limousin. Seulement 5% du territoire limousin était couvert par de la forêt. Et c'est après-guerre, donc après la Seconde Guerre mondiale, une grande déprise agricole, l'État met en place des financements pour occuper des terrains qui étaient abandonnés, donc des landes essentiellement. Donc aujourd'hui, dans le paysage, le boisement est très présent. Tout ce qui est peuplement feuillu, ce sont des terres abandonnées qui ont évolué toutes seules jusqu'à aujourd'hui. Et tout ce qui est résineux, c'est des terrains qui ont été plantés par la main de l'homme à partir des années 50 jusqu'aux années 90. Et la gestion en elle-même aujourd'hui, bah, c'est quoi? C'est éduquer une forêt, l'éclaircir, voire la renouveler pour qu'elle puisse répondre aux attentes des hommes. Hein. Donc c'est prélever du bois pour nos usages quotidiens, faire des meubles, des maisons, pâte à papier, etc. Se chauffer aussi. Et c'est aussi accueillir la biodiversité, accueillir des gens qui vont se promener en forêt. Donc c'est un tout, et à l'ONF, on fait, nous, ce qu'on appelle de la gestion multifonctionnelle. C'est donc on doit concilier tous les enjeux, production de bois, environnement, paysage, accueil public. Alors la monoculture, effectivement, ben ça, on hérite du passé. Donc dans les années 50, 60, 70, quand on plantait des arbres, on ne se souciait pas de l'environnement ou même de l'accueil public, c'était production de bois. Aujourd'hui, on hérite de ces peuplements qui ont 50, 60 ans, avec une seule essence sur une seule parcelle. C'est à éviter, parce que si cette essence ne tient pas le coup par rapport au changement climatique, par exemple, on perd tout d'un coup, et là, on est contraint quasiment d'arriver jusqu'à la coupe rase. Donc aujourd'hui, pour éviter ça, il faut diversifier les essences au sein d'une même parcelle, diversifier les âges pour obtenir un couvert continu et éviter à tout prix la coupe rase. Malheureusement, en certains cas, on est tellement avancé dans l'âge des peuplements qu'on peut être contraint par ce genre de choses-là. Ouais.
Jérôme, est-ce que vous pouvez nous parler des essences qui nous retrouvons autour du lac des Vassivières, mais aussi au PNR?
Oui. Alors, on trouve deux types de grandes essences, les feuillus et les résineux. Donc, dans les feuillus, on a du chêne, on a du hêtre, on a aussi des bouleaux, sorbiers oiseleurs, alisiers blancs, j'en oublie certainement. Hein. Et dans les résineux, le plus courant, c'est le douglas. On a aussi de l'épicéa commun. On peut avoir de l'épicéa de sitka, du sapin, du mélèze. On en trouve autour du lac quasiment toutes les essences qu'on retrouve en Limousin. On a une sorte de concentré du Limousin autour du lac de Vassivière.
Comment vous travaillez avec le syndicat, le PNR, les conservatoires de littoral, puisqu'il y a plusieurs institutions qui doivent, j'imagine, se coordonner pour mener à bien vos actions?
Alors c'est vrai que sur le lac de Vassivière, on a un partenariat qui est un petit peu atypique. Déjà, il y a le conservatoire littoral qui est propriétaire des terrains autour du lac. Et il y a plusieurs gestionnaires, des co-gestionnaires. Il y a le syndicat du lac, il y a l'ONF, il y a le conservatoire espace naturel et il y a le PNR. Et en fait, on a une convention quadripartite qui nous réunit et qui définit les rôles de chacun, en fait. Et on travaille en bonne intelligence, en se concertant et on avance tous ensemble. L'an dernier, on a rédigé un document de gestion pour les 15 années à venir, donc qui a été visé par toutes les parties. Et là, donc, on s'est mis d'accord pour mettre ça en place sur les années à venir. Alors déjà, comme je disais tout à l'heure, il y a un document de gestion sur les terrains autour du lac. Donc toutes les actions qu'on met en œuvre sont prévues dans ce document de gestion. On peut y déroger s'il y a une tempête, un incendie ou une grosse sécheresse qui fait mourir des arbres. Donc là, on peut éventuellement y déroger, mais on tient ce plan de gestion. Ensuite, c'est l'ONF qui vend les bois. Donc nous marquons les bois, nous les vendons avec un cahier des charges. Et quand la coupe est vendue, on contrôle régulièrement l'acheteur qui vient sur la parcelle pour vérifier qu'ils lui ont été vendus. Et après, sur les 15 ans à venir, alors je ne connais pas le document par cœur, mais en fait, l'idée, c'est justement d'éviter à tout prix les coupes rases. Pour garder un couvert continu sur les parcelles, donc on va les travailler différemment pour les renouveler sans aboutir forcément à la coupe totale des arbres sur une parcelle. Ce n'est pas forcément évident, mais on va le mettre en œuvre, en tout cas, on va essayer de le mettre en œuvre. Après, ce qui se passe en forêt privée, l'ONF n'intervient pas. Nous, on intervient qu'en forêt publique. Effectivement, aujourd'hui, depuis maintenant quelques années, l'ONF réoriente sa gestion pour éviter à tout prix les coupes rases.
Est-ce que tu connais les projets qui étaient mis en place à l'île de Vassivière par rapport à plusieurs types d'arbres qui sont dans un petit... Tu peux nous raconter un peu si tu connais ça.
C'est un projet d'arboretum.
Oui, voilà.
Oui, c'est ça. Ben, on gère aussi les forêts qui sont sur l'île de Vassivière, mais qui appartiennent cette fois à la région Nouvelle-Aquitaine. Donc, il y a une trentaine d'hectares qu'on a en gestion. Alors aujourd'hui, les forêts de l'île de Vassivière servent d'écrin en fait aux œuvres d'art qui se trouvent sur l'île. Donc c'est une gestion qui est encore plus fine que ce qu'on peut faire ailleurs. C'est quasiment du parc et jardin. Et effectivement, un de nos collègues qui part à la retraite dans deux jours, même non, il part à la retraite demain, c'est lui qui a planté les arbres pour faire un arboretum, donc en fait une collection d'arbres un petit peu atypique. Et qu'on va gérer aussi pour voir un petit peu comment ça évolue. Alors à l'époque, quand ça s'est mis en place, c'était plus une collection pour se faire plaisir. Aujourd'hui, dans le cadre du changement climatique, on est intéressé pour voir comment ces essences réagissent. Savoir si on peut les mettre ailleurs ou si elles sont vouées à l'échec en restant uniquement où elles se trouvent aujourd'hui. C'est Gilles Fournel.
Et concernant les espèces des oiseaux.
Alors là, je dirais que le PNR serait mieux placé que moi. J'ai quelques connaissances en ornithologie, mais qui ne sont pas forcément très poussées. Moi, je suis plus orienté sur la botanique. Mais effectivement, on trouve un cortège d'oiseaux qui est quand même très intéressant. Mais là, je vous oriente plus vers le PNR, qui sont très, très pointus sur le domaine. C'est eux qui animent la ZPS, Zone de Protection Spéciale. Donc, c'est la zone Natura 2000 qui couvre tout le plateau de Mille Vaches au titre, justement, de la protection des oiseaux.
Je voulais revenir à ça aussi, le Natura 2000. De quoi il s'agit, Natura 2000 ?
Alors Natura 2000, c'est un plan à la base qui est européen. Donc il y a deux types de sites Natura 2000, soit les habitats, soit les espèces. Et en fait, on a les deux sur le lac de Vassivière. On a à la fois les habitats et puis ce qu'on appelle la ZSC, zone spéciale de conservation, et la ZPS, zone protection spéciale. Donc les oiseaux d'un côté et les habitats de l'autre. Et en fait, c'est un programme qui a été décliné au niveau national, où on a classé des terrains. Et sur ces terrains, on peut bénéficier de subventions pour mettre en œuvre des travaux pour favoriser tel habitat ou telle espèce.
Tu connais un peu les espèces qui sont sur l'île de Vassivière, des oiseaux ?
Alors spécifiquement sur l'île, non, je ne les connais pas. Mais sur le plateau Mille Vaches, oui, quelques-unes. Après, c'est souvent les mêmes. Hein. Là, on a le pic noir qu'on voit fréquemment dans les forêts. D'ailleurs, on a tous les pics. Enfin, on a pas mal d'oiseaux qui sont très intéressants, des rapaces. Oui, mais ça, je vous oriente plus vers le PNR.
Pour revenir donc, à la botanique, qui est votre terrain d'entente, c'est quoi ces espèces qu'on dit protéger des pépites qui ont dit, les conservatoires, le CEN, les syndicats, on est là pour protéger ces espèces-là.
Alors, on a quelques espèces, effectivement. On a le Lycopodon massu qu'on peut trouver sur la lande du Puy-la-Croix, donc une sorte de fougère primitive qui ressemble plus à une mousse et une fougère, mais qui est en voie de régression parce que c'est une relique glaciaire, donc dès que forcément les températures montent, elle n'est pas forcément très bien. Après, certes, on peut cibler des espèces, mais surtout des habitants. Donc c'est tout un écosystème en fait qu'il faut arriver à gérer. Et là c'est vrai que sur le lac depuis maintenant 70 ans, c'était des terrains qui étaient pâturés historiquement, qui ne le sont plus et qu'on remet en pâturage. Donc là il faut revoir les milieux, les remettre en pâturage, retrouver des pratiques ancestrales pour remettre en état des écosystèmes et pour que les espèces qui sont inféodées, qui peuvent être rares ou pas d'ailleurs, puissent se développer à nouveau.
Comment vous faites pour articuler justement tous ces aménagements, toutes ces missions au sein de chaque structure ? Est-ce qu'il y a des comités de pilotage ?
On se réunit plusieurs fois par an, effectivement, et on en a fait une réunion il n'y a pas très longtemps où on planifie les coupes, les travaux pour l'année. Une fois par an, on présente ça à tous les partenaires institutionnels, donc les Comcom, communes, services de l'État, pour faire une sorte de bilan de tout ce qui a été fait sur le lac de Vassivière. Donc là, je parle plutôt des terrains du conservatoire du littoral, hein. Et en fait, c'est plutôt bien accueilli et c'est des moments d'échange qui sont toujours très intéressants parce qu'on a un retour aussi sur ce qu'on peut faire. Nous, des fois, on pense bien faire et c'est pas forcément accueilli de la même façon par les gens qui voient ça. Donc, c'est intéressant d'avoir un retour pour essayer de s'améliorer et faire mieux.
Est-ce que nous pouvons évoquer l'importance aussi de ces tourbières au sein de ces territoires?
Ah oui, alors les tourbières sont extrêmement importantes. C'est dans ces terrains-là qu'on a la plus grande biodiversité. Donc, pour le rappel, les tourbières, elles ont entre 8 et 10 000 ans. Hein. Et c'est tous les ans une petite couche de matière organique qui s'accumule, qui monte, et qui constitue ces milieux qui sont vraiment atypiques, gorgés d'eau, avec des espèces qu'on ne retrouve pas ailleurs, que ce soit végétales ou animales, qui sont des puits de fraîcheur aussi en été. Il n'est pas rare qu'en juillet, août, on a encore des gelées dans ces terrains-là. Hein. Et c'est une masse d'eau importante, de l'eau de qualité. Donc dans les années qui viennent, avec peut-être des risques de sécheresse, on sera peut-être bien content de trouver les tourbières. On voit déjà pour le pâturage, l'été, les agriculteurs demandent de plus en plus de terrains humides pour pouvoir mettre leurs troupeaux. Parce qu'ailleurs, il n'y a plus rien à manger. Et ces tourbières-là, c'est vrai qu'en plus, elles ont une faculté de stocker le pollen des arbres tous les ans dans leur petite couche de matière organique. Ce qui fait qu'on peut remonter dans le temps et connaître le paysage il y a 8-10 000 ans. Alors on a des projections effectivement jusqu'en 2070, donc ce sont des projections parce qu'on ne sait pas exactement comment va évoluer le climat. On a trois scénarios, un optimiste, un moyen et un pessimiste. L'optimiste, on l'a déjà abandonné parce qu'on sait qu'on ne sera pas dessus. Le moyen, on s'en écarte un petit peu et on est plutôt sur la trajectoire pessimiste. Donc en fait, on essaie de trouver des essences qui sont adaptées au climat futur, essences d'arbres, mais qui sont aussi adaptés au climat d'aujourd'hui, parce que si on met des essences qui ont vraiment besoin de conditions très chaudes, aujourd'hui on ne les a pas encore. Et donc pour nous c'est une grosse difficulté, parce que quand on fait de la forêt, on le fait sur plusieurs dizaines d'années, voire des siècles, et avec un climat qui change très rapidement, plus rapidement que ce que les essences forestières ont elles-mêmes connu dans le passé, eh ben, on a du mal à s'adapter. Donc en fait on tente, on diversifie les essences, on en plante plusieurs sur une parcelle, on gère différemment pour avoir différents âges comme j'ai dit tout à l'heure, et en fait c'est ne pas mettre tous ces hommes dans le même panier, donc en espérant que certaines sortent du lot par rapport à d'autres, mais là c'est des projections en fait, on ne maîtrise rien pour l'instant et en fait on ne sait pas grand chose.
Si tu pourras nous parler et en résumé à grosso modo, c'était quoi la version optimiste et c'était quoi la version pessimiste de,
alors version futur? Optimiste, c'est on reste sous les 1,5 degrés au niveau mondial. Ce qui fait que le climat, finalement, entre aujourd'hui et celui qu'on vise en 2070-2100 est sensiblement le même. Bon, on sait que ça ne restera pas comme ça. Et version pessimiste, on est à plus 4 degrés. Là, c'est des conditions qui n'ont plus rien à voir. En gros, on aurait ici le climat de Barcelone, avec des conditions climatiques qui ne sont plus du tout les mêmes. Et surtout, on a ici des sols qui sont très filtrants. On n'a pas de réserve d'eau. Donc si, par exemple, en été, il s'arrête de pleuvoir ou il pleut beaucoup moins, sachant que c'est là que nos arbres ont besoin de plus d'eau, ben, les essences qu'on a aujourd'hui, elles ont du mal à résister.
Et donc, les plateaux de mille vaches, les plateaux de mille sources, donc ça reste où cette idée qu'il y a beaucoup d'eau ici?
Oui, ben, c'est parce qu'il y a beaucoup de tourbières, justement. On est sur une tête de bassin, donc on est sur un plateau où il pleut beaucoup. On l'a vu encore cet hiver, hein, c'était très arrosé. On a encore des bonnes pluies en été, donc on ne va pas être trop pessimiste aujourd'hui. Hein, je ne veux pas alarmer les gens, mais voilà, on a encore un climat qui est favorable. Même avec les projections qu'on a, on sait que le plateau va se réchauffer moins, enfin on aura moins de problèmes sur le plateau qu'ailleurs visiblement, mais aussi ça reste encore des projections. Après on constate de toute façon qu'il pleut quasiment autant qu'avant, mais c'est pas réparti de la même façon. Avant il pleuvait toute l'année, aujourd'hui c'est plus en hiver, un peu moins en été, et donc nos mille sources, je pense que nos sources continueront à donner un petit peu, hein. Mais bon, on verra, on se donne rendez-vous.
Le marque sur mon agenda. Jérôme, je voudrais aussi revenir à ce que vous avez dit. J'ai l'impression que c'est tout un terrain d'expérimentation. Vous expérimentez parce que vous ne savez pas comment ça va évoluer. Enfin, au fil du temps, si ça va monter la température, si ça va être stable. Donc, d'une certaine façon, vous expérimentez avec ces essences dont vous proposiez.
C'est ça, on a fait des essais, déjà après la tempête de 99, on a essayé de nouvelles essences. Surtout, plus parler d'essences, je voulais parler de pratiques et d'écosystèmes, parce qu'on a l'impression qu'il suffit d'enlever une essence qui ne tient pas le coup pour en mettre une autre qui résistera. En fait, ce n'est pas si simple. C'est tout un écosystème qu'il faut faire migrer entre une température clémente et une température moins clémente. Et ça, c'est un ensemble de phénomènes, un ensemble de choses qui sont peut-être pas forcément palpables pour les gens qui nous écoutent, mais en fait, voilà, c'est l'interaction entre les différentes essences, entre les différents arbres, entre ce qui se passe au sol, ce qui se passe plus haut dans les branches. Voilà, c'est tout un écosystème qu'on doit faire migrer, et ça, c'est la plus grande difficulté qu'on a, parce que déjà, il faut bien connaître cet écosystème pour pouvoir travailler dessus. Et aujourd'hui, effectivement, on expérimente depuis maintenant 20 ans, mais 20 ans, l'échelle de la forêt, c'est rien du tout.
Et effectivement, quand on parle des arbres, on ne parle pas que des arbres, il y a tout un écosystème, comme vous venez d'évoquer, donc il y a les insectes, les oiseaux, tout ce qu'on peut retrouver là-dedans.
Est-ce qu'il y a un arbre qui t'attire plus ou que tu dis, moi j'aime beaucoup cet arbre, et pourquoi ?
Alors, il y en a un qui est plutôt mal aimé, c'est le Douglas, que j'aime bien. Le problème, c'est qu'on en a mis un peu partout, un peu n'importe comment, et qu'on le gère parfois de façon un petit peu basique. Alors que quand on a des parcelles qui sont bien gérées, bien renouvelées, avec des arbres majestueux, ça donne un résultat qui est vraiment très sympathique. Alors cette essence est mal aimée parce que voilà, on en a mis partout. Hein. Moi, j'aime bien poser des questions aux gens quand ils me disent « moi, j'aime pas le Douglas », je leur demandais pourquoi. Ils me disent souvent parce qu'il y en a partout. Bon, c'est pas sa faute. Hein. Parce qu'il pousse aligné. C'est pas sa faute non plus, c'est comme ça qu'on le plante. Hein, donc c'est... Et parce qu'il ferme le paysage. Tout ça, c'est vrai. Mais c'est pas la faute de l'essence, c'est la faute de celui qui a planté l'arbre. Donc c'est un problème humain et pas un problème d'essence. Cette essence-là, si elle est gérée correctement et de façon raisonnable, en fait, on peut avoir de très bons résultats, que ce soit d'un point de vue production de bois, même biodiversité et même paysager.
Et si je vous demande pour une fleur du CID, du PNR, de l'île des Vassivières, du lac des Vassivières?
Une fleur atypique, je dirais la gentiane pneumonante. C'est une petite fleur bleue quasiment électrique, qu'on peut trouver dans certaines zones humides et qui est vraiment spectaculaire. Alors, bon, ça fait quelques petits tapis. Elles ne sont pas vraiment pas très grosses, mais en tout cas, c'est vrai que c'est pour moi une des fleurs les plus jolies qu'on peut trouver sur le plateau.
Alors, il y a une fleur, vous me corrigerez si c'est le cas, mais c'est la Drosera.
Oui.
C'est la tentation du paysage. C'est magnifique.
Alors, la Drosera peut surprendre parce que souvent, quand on la présente en photo, on zoome dessus, donc ça fait une grosse plante carnivore. Et en fait, elle est toute petite. C'est de l'ordre du millimètre, voire du centimètre au grand maximum. C'est vrai que c'est une plante qui est atypique parce que justement, elle pousse dans les tourbières. Et comme il n'y a pas grand-chose pour s'ouvrir dans les tourbières, elle a compensé en attrapant quelques insectes et en les digérant. Donc, elle a une espèce de palette qui ressemble à une petite raquette de ping-pong avec des poils pleins de glu. Les insectes se posent dessus, la feuille se referme sur l'insecte, elle le digère, la feuille se rouvre et le vent emporte ce qui reste de l'insecte. C'est vrai que c'est une plante qui est vraiment atypique et qui suscite toujours un petit peu de légende.
On peut la voir où et sur quelle période ?
Alors, on peut la trouver uniquement sur les tourbières. À quelle période ? Elle commence à sortir au mois de mai-juin. Elle fait une petite fleur qui est très discrète, qui est blanche, qu'on peut trouver au cœur de l'été. Mais souvent, il faut se faire accompagner pour la trouver parce que même quand on passe à proximité, si on n'a pas l'œil, on ne la voit pas. Je voulais évoquer quelque chose. C'est vrai qu'aujourd'hui, la gestion forestière est beaucoup remise en question. Et à juste titre, parce qu'il se trouve qu'on a aussi fait des fois des choses qui n'étaient pas forcément très, très correctes. Hein. Et c'est vrai que ça fait du bien de se remettre en question, de retrouver de nouvelles pratiques qui viennent pas forcément du Limousin, qu'on a pratiquées ailleurs, par exemple. Hein. C'est vrai que, bon, comme je disais tout à l'heure, la forêt limousine est jeune, donc les forestiers apprennent un petit peu en marchant. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, il se passe pas mal de choses en forêt, autour de la forêt. Et je trouve que c'est quand même bénéfique de pouvoir échanger sur nos pratiques, sur le ressenti des gens, parce que c'est très important. Nous, des fois, on se dit expert, mais voilà, c'est bien d'avoir un regard extérieur pour voir si ce qu'on fait peut être compris, perçu, et aussi communiquer auprès des gens pour expliquer. Parce qu'en fait, nos connaissances, souvent, les gardent pour nous, et on a tendance à ne pas aller vers l'autre, et donc ça, c'est un petit peu dommage.
Est-ce que tu connaissais Vassivières avant que les lacs aient été mis en place? Ah oui, c'était 60. Non, peut-être tu étais.
Alors, je suis peut-être vieux, mais je suis né bien après la construction du lac de Vassivières.
Alors, oui, c'est ça que je me demandais. Mais ma question surtout, c'était, tu te rappelles, c'était quoi ton première expérience au lac de Vassivières? Quand est-ce que tu as connu les lacs de Vassivières?
Alors, j'ai connu le lac de Vassivières. J'en ai beaucoup entendu parler quand j'étais jeune, mais c'est vrai que j'avais eu la chance d'y venir. Et la première fois que je l'ai vu, c'est quand je suis arrivé sur le poste ONF à Royer de Vassivières. où j'ai longé cette vaste étendue d'eau avec cette verdure tout autour. Et c'était vraiment une image qui était, je m'en souviens encore, hein, qui était vraiment spectaculaire, avec cette eau qui était bleue ce jour-là et qui tranchait avec la verdure aux alentours. On parle souvent de Petit Canada, bon, ça souvent c'est galvaudé, mais en tout cas, Vassivière a vraiment son ambiance spécifique. Et je pense qu'on n'a pas besoin de le comparer à autre chose, c'est Vassivière, c'est tout.
Merci, merci beaucoup Jérôme.